Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Heureux.
Je suis heureux, tu m'as donné ton nom.
Que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pour aimer qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu l'a amené à donner son meilleur. Ce verset, on l'a tellement récité depuis l'école de dimanche. On a tellement entendu que ce verset semble avoir perdu de sa subsistance. Mais ce matin, je veux que tu crois que Dieu t'a tellement aimé. L'amour est plus fort que la mort. Et l'amour de Dieu pour toi demeure éternel. Et c'est sur la base de son amour qu'il agit à ta faveur. C'est sur la base de ton amour que sa destinée, la destinée qui t'a fixée se réalise. C'est sur la base de son amour qu'il t'a donné son nom. Il dit, le chant dit, tu m'as donné ton nom. Son nom est le nom le plus grand. Le nom le plus élevé. Le nom le plus beau. Le nom le plus célèbre. Le nom qui divise l'histoire avant Jésus et après Jésus. C'est le nom de la distinction. Alléluia. Est-ce que ce matin tu peux te tenir debout simplement à ta place? Enlève ta main vers le ciel. Ton nom. Tu vas lever tes mains vers le ciel. On va chanter le nom de Jésus. Il dit, en son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Le nom de Jésus est élevé. Et devant son nom, les démons tremblent. Aucune circonstance humaine ne peut résister devant son nom. Son nom est célébré. Et le nom de Jésus est le nom qui a été révélé. C'est le nom de Dieu. Le mystère qui a été caché de toute éternité nous a été révélé en Christ. Et l'apôtre Paul a reçu la révélation dans Colossiens chapitre 1. Il dit le mystère qui a été caché de tout temps. Le mystère qui a été caché de tout temps a été révélé en Jésus. Alléluia. Et quand tu portes le nom de chrétien, quand tu portes le nom de Jésus, tu portes le nom le plus distingué. Et derrière chaque nom, il y a un attribut, il y a un pouvoir, une autorité, des privilèges, des avantages. Et tu portes le nom.
Je le glorifierai.
Oui, tu peux le glorifier ce matin.
Et je l'exalterai.
Exalte le nom de Jésus.
Je le proclamerai.
Les anges s'inclinent devant son nom. Les puissants des s'inclinent devant son nom.
Sur la terre des hommes, je parlerai de toi, Seigneur. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai. Ce nom qui sauve. Ton nom, le plus beau des poèmes. J'ai le plus beau des poèmes. Jésus-Christ, ton nom, la plus belle chanson.
On peut acclamer plus fort que ça en poussant des cris de joie. Le nom le plus grand. Alléluia. Le nom le plus grand. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans l'allégresse, Seigneur. Parce que tu fais de toutes choses en son temps. Et tu glorifies ton nom. Que la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour ta grâce. Amen. On peut s'asseoir. N'allez pas asseoir-vous à côté parce qu'on va continuer à adorer le Seigneur. Ce matin, mon âme est dans la joie parce que Dieu m'a fait du bien. Ton âme aussi est dans la joie parce que Dieu t'a fait du bien. Gloire à Dieu. Nous croyons, moi je crois vraiment que Dieu accomplit sa parole. Nous avons le grand Dieu, mais on n'a pas toujours la révélation de ce qu'il dit, il le fait. Cette semaine, j'ai été témoin de ce que Dieu agit et accomplit sa parole. Il y a des choses que vous pouvez prêcher, vous pouvez le dire, vous pouvez le répéter, mais si vous ne le vivez pas, ça n'aura pas d'impact. Et si vous avez affaire à des gens qui sont un peu intelligents, ils ne croiront pas à tout ce que vous dites. Parce qu'il va dire, toi tu dis quelque chose, toi-même tu ne le vis pas. Je crois que ce que Dieu a écrit dans sa parole doit être matérialisé. Vous savez, Jésus a dit quelque chose, et c'est un pasteur qui m'a donné la révélation de ce passage-là. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et cette parole est devenue chair. On touche la chair, oui ou non? La parole est devenue chair. Ça veut dire que la parole a été touchée, la parole est devenue concrète. On peut dire, en on dit, est devenue concrétude. Je ne crois pas que ce mot existe, hein. Mais enfin, la parole est devenue quelque chose de palpable. Chers frères, chers sœurs, il faudrait que dans nos vies, nous puissions arriver à un moment où nous puissions expérimenter au moins une partie de la parole de Dieu. Ça prend du temps, c'est vrai. Ça prend du temps, c'est vrai. Mais quand la parole s'accomplit sur vous, vous êtes tellement à l'aise. Et moi, je suis vraiment à l'aise. Je n'ai plus peur de quelque chose. Je sais ce que Dieu a dit sur ma vie. Dieu l'accomplit. Et s'il le fait au niveau individuel, je suis convaincu là. Depuis cette semaine, je suis tellement à l'aise que je sais que l'œuvre qu'on a commencé là, ça va grandir. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a deux semaines en arrière, je disais qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais. Qu'est-ce que ceux qui étaient là? Non, qu'est-ce que ceux qui n'étaient pas là? Voilà moitié. Il y a deux semaines en arrière. Mais je priais plus, bon. C'est venu dans mon esprit. C'est le logos, enfin, le logos, la parole générale, mais le rhéma, c'est quelque chose qui prend une place particulière. Et je n'avais jamais prêché sur cela, jamais. Et c'était à moi, c'était à moi. Une bonne nouvelle n'arrive jamais tout seul. Et puis il y a une amie avec qui j'ai fait l'université. Je suis allé prier pour sa maison, enfin pour l'habitation de sa maison. Et je lui ai dit, madame, une bonne nouvelle n'arrive jamais tout seul. Et puis quand je commençais à réfléchir à cela à travers la parole, j'ai compris que effectivement dans la Bible, une bonne nouvelle ne venait jamais tout seul. Alors j'ai pensé directement à ce qui s'est passé avec Moïse et le peuple d'Israël en Égypte. Quand Dieu a donné l'ordre à Moïse de dire à Pharaon de laisser partir le peuple est sorti d'Égypte. Mais est-ce que le peuple est sorti les mains vides? Non, le peuple est sorti avec de grands biens. La bonne nouvelle, la délivrance, n'était pas seule. Elle était accompagnée de richesses matérielles et financières. Une bonne nouvelle n'arrive jamais tout seul. Rappelez-vous aussi, au temps de Cyrus, avec Esdras, quand le temps est arrivé, Cyrus a fait écrire que désormais, il libère le peuple afin qu'il parte en Israël pour adorer leur Dieu. Et il a demandé que toutes les richesses, enfin, l'or et l'argent soient donnés aux Juifs pour rebâtir le temple qui avait été détruit par qui? Par Nebuchadnezzar. Dis à ton voisin, une bonne nouvelle ne vient pas tout seul. Et ce n'est pas tout. Vous verrez dans toute la parole de Dieu que chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle, il y a toujours une suite. Et je peux vous le dire, nous sommes entrés dans une phase de bonne nouvelle. Il y a un temps où on pleure, il y a un temps où on crie, il y a un temps où on loue Dieu. Observe ta vie. Si tu as commencé à faire quelque chose de particulier et que tu es entré dans les phases de bonne nouvelle, la bonne nouvelle ne sera pas seule. Elle sera accompagnée. Il faut le croire. En tout cas, moi, si vous ne le croyez pas, moi, je veux le croire. Une bonne nouvelle ne vient jamais tout seul. Première chose que j'ai comprise, Deuxième chose que j'ai comprise aussi, c'est que quand Dieu dit, je fais de vous la tête et non pas la queue. Nous, évangéliques, on l'a souvent chanté. Et souvent, dans mes causes, je l'ai toujours dit, mais où sont les chrétiens évangéliques et dans quel domaine on est élevé? Dans quel domaine? Mais ça, c'est nous la faute des pasteurs. Parce qu'on dit on sera élevé, mais est-ce que, pour être honnête, non, soyons sincères et honnêtes. Dans quel domaine nous, évangéliques, on est élevé? Dites-moi sur le domaine où on est élevé. Ou un chrétien évangélique qui est vraiment élevé, quoi? C'est quelque chose de rare. Donc il y a un problème. On prêche sur l'élévation, mais on ne vit pas sur l'élévation. Il y a un problème. J'ai compris que si on ne prêchait plus, si on se contentait de prêcher seulement par la parole, et qu'on ne prêchait pas par le modèle, on n'allait pas avoir l'élévation. Gloire à Dieu. Et je bénis Dieu de ce que, pendant quelques années, Dieu m'a fait comprendre des choses. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais le dire. Depuis le 14 novembre, du 14 novembre au 21 novembre, a été organisé le concours d'agrégation du CAMES. Le concours est organisé tous les 2 ans. C'est un concours qui est... Bon, lui, il lançait quelque chose. Enfin, il n'est pas encore face au concours. Il a déjà fait les préparations. Le docteur Mambo Paten. C'est le concours où on recrute les professeurs de rang A. Les professeurs de rang magistral. C'est... Comment on dit ça? C'est le concours, enfin, c'est tellement sélectif que je ne peux pas décrire ça. Mais c'est le top des tops, si vous voulez, de tous les concours qui existent. C'est le top des tops. C'est entouré de tellement de mystères. Je vous assure. Il y en a qui flippent, mais il y en a qui font pipi sur eux. Mais c'est entouré de tellement de mystères. Tellement dur. Il y a un professeur hier qui m'a écrit de Paris, m'a dit la dureté du concours. C'est tellement difficile, tellement dur. Je ne peux pas imaginer. Tout ce que vous pouvez imaginer, supprimez ça. Tant que tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Sans faire du mystère autour de cela. Et tous les 2 ans, les gens s'en vont. Ceux qui ont doctorat se présentent. Et généralement, la moitié est éliminée au premier tour. La moitié du premier tour. Au second tour, ils éliminent le tiers. Du tiers de ce qui est resté. Au troisième tour, ils éliminent soit le tiers ou le quart de ce qui reste. Il reste un petit nombre. Et j'avais déjà l'information. Des fois, maintenant qu'ils s'en vont, il y a souvent 12% d'admis, 15%, 20%. Quand c'est 28%, c'est beaucoup même. Et donc, après ma thèse, on m'a encouragé à faire ce concours. Et je ne vais pas vous faire languir cette semaine.
le 21 novembre, j'ai été admis au concours d'agrégation.
On peut acclamer plus fort que ça, alléluia! Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué!
Et ce n'est pas tout, je suis le major de droit public.
Alléluia! Wow.
Bon, d'asseoir. C'est la quête. C'est moi. C'est mieux ce que d'avoir fait. J'ai crié, j'ai crié, j'ai crié. J'ai dansé à l'hôtel, j'ai dansé à la maison. Enfin, même pas vu. J'ai fermé la chambre. J'ai dansé. J'ai dansé avec, mais vraiment avec les pieds en l'air, en tombant. Mais j'ai comme un fou. Mais vous pouvez pas imaginer. Dieu m'a fait cette grâce là. Déjà, être admis au concours d'agrégation, c'est déjà un exploit. Mais être le premier, être le major, ça... Non, j'aurais pu prier, je peux m'attendre au succès, mais être major, je ne m'attendais pas à ça, honnêtement. Franchement, quoi. On vous dit, on limite les gens. Mais, non, mais Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu fait de nous la tête, non pas la queue. Je sais maintenant ce que ça signifie être la tête. Je veux plus, non, je sais ce que ça signifie. Parce que moi, dans ma promotion de ma génération, c'est que le Kames Gadji Yahou Abraham, major du concours d'agrégation Kames 2011. Ça, c'est écrit. Bénissez Dieu avec moi. Qu'est-ce que je peux dire? Mais je sais une chose à travers la parole de Dieu. Quand la tête de Aaron est arrosée. Alléluia. Quand la tête d'Aaron est arrosée. Quand l'huile tombe sur la tête d'Aaron, ça touche sa barbe et ça touche ses pieds. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Quand la tête d'Aaron est arrosée. Au plan spirituel, ça veut dire que quand Dieu bénit votre leader, la bénédiction retombe. Ça réagit, je crois à cela. Vous savez, je crois au transfert d'autorité. L'onction est transmissible. C'est pourquoi la Bible déclare de ne pas s'associer avec les mauvaises compagnies. S'il n'y avait pas un transfert d'autorité, on allait s'associer avec les mauvaises compagnies. Quand Dieu dit, ne vous associez pas avec les mauvaises compagnies, ça veut dire que, la Bible donne même la réponse. Parce que les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent les bonnes mœurs. Vous voyez? En réalité, ça devait être le contraire. C'était les bonnes mœurs qui devaient corrompre les mauvaises compagnies. Le mal est tellement pernicieux que le mal arrive à infecter ou affecter négativement les bonnes mœurs. En revanche, si tu fréquentes les bonnes mœurs, si tu fréquentes les bonnes compagnies, tu seras impacté positivement. Alléluia. Là, je retrouve la force là. Les pasteurs ont été méprisés. On prêche la parole des fois. Moi, je crois maintenant. Vous savez, une fois, j'ai dit à Dieu, j'ai commencé un message comme ça, hein, on va louer Dieu, on va remercier le Seigneur. De toute façon, je comprends que on prêche mieux par le modèle que par la parole. Ou bien, on prêche mieux par le modèle. Quand tu vas savoir que, celui qui me parle, lui-même... Je l'ai mis dedans. Tu crois aux paroles que je te dis. Et si je dis maintenant, je vais me poser les mains aux gens pour recevoir. C'est quand tout le monde va venir ici. Mais non, je vais simplement dire ceci, c'est que Dieu est fidèle à sa parole. Je crois véritablement à cela. J'ai vu que c'était un signe que Dieu me donnait. Ça était des fois pas toujours évident parce que quand en 1409, j'ai été consacré pasteur. Je me rappelle que ma cousine était dans la salle, hein. Mais à l'époque aussi, mon épouse, elle n'était pas encore mariée. Et quand je suis arrivé à la maison où j'habitais, je voulais arrêter tout. J'étais consultant ministre de l'environnement. Je faisais 2 ans en droit public ici. Il dit, mais monsieur pasteur, je vais arrêter tout cela.
Dieu est gentil. Le groupe me dit, tu es fou, tu es malade. Dieu ne m'a pas dit ça. Il m'a dit que tes études et ton travail est une bénédiction. Dieu m'a parlé clairement. Ça m'a motivé à continuer les études. Ça a été parfois difficile. Parce que le pasteur que je suis, je vais d'abord prier, faire des programmes. Moi, je suis un homme de programme. Hein. Et si vous ne savez pas, voyez un peu la dimension de la CV. Pour savoir à peu près ce que je veux, ce que j'ai envie de faire pour la Côte d'Ivoire. Ou ce que j'ai envie de faire dans le ministère. Je n'ai pas fait les choses à peu près. Donc, j'aime ça. Et ce que la même fait à Ouagadougou, ça a été quelque chose de très fort. Et j'ai envie de continuer à faire ça. Dieu me dit, non, stand by. Enfin, c'est ça, non. On dit, fais stop. Tu peux faire les CV, mais concentre-toi sur tes études. Donc, à part les CV, je ne faisais plus rien. Les églises que j'avais, c'est tout. On avait l'impression que je ne m'intéressais pas à l'église, à l'œuvre de Dieu. Non, c'est que Dieu m'avait donné une direction. Chers frères, chers sœurs, la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et des fois, quand je rencontrais quelques mes collègues pasteurs, j'avais envie d'être comme eux. C'est-à-dire, vraiment, ils ont le temps, ils ont assez d'argent. Mais en même temps aussi, je me disais, mais ils ont le temps, ils ont l'argent, et puis bon, on ne voit pas toujours l'impact sur la nation. Donc, j'ai dit, ok, il vaut mieux que j'obéisse à ce que Dieu me dit. Parce que certainement, si j'obéis à ce que Dieu me dit, certainement, ce qu'il va faire va avoir un grand impact sur la nation. Parce qu'on pourrait associer le nom Gadji Abraham, non seulement au nom d'un pasteur, mais au nom d'un éminent intellectuel. Puisque maintenant, je suis dans la catégorie des éminents intellectuels. Ils ont fait de moi un maître. Pas plus tard qu'il y a encore donné une thèse à instruire. Ça a commencé déjà. Donc, j'ai compris qu'en fait, le plus important dans la vie, c'est d'écouter ce que Dieu dit. Et en écoutant ce que Dieu dit, même si c'est un domaine qui ne paraît pas exceptionnel, si vous arrivez à obéir à ce que Dieu dit et que vous le faites, sa grâce, sa faveur, sa bénédiction vont toujours vous accompagner. Il faut dire amen avec moi. Je crois à cela. Effectivement, je crois à cela. Et donc, ça a été difficile des fois. Mais j'ai obéi à la parole. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce couronnement. Et j'ai vu des signes. Les temps de prière que nous avons ici, prenez-les au sérieux. Le premier jour, on a commencé à prier. J'ai vu des choses, mais c'était personnel à moi. Je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas dit ça à quelqu'un, mais j'ai écrit ça. Et souvent, j'écris tout. J'ai vu que ma tête était couronnée. J'ai écrit ça. Que j'allais connaître. C'était une semaine avant le concours. Ma tête, il y avait un couronnement sur ma tête. J'ai gardé ça. Et dimanche passé, là j'étais déjà au troisième tour. Dimanche passé, vous m'avez vu, non? Le lendemain, je devais composer. Entre parenthèses, il y a des gens qui passent un petit concours, l'ENA. Entre l'ENA et l'agrégation, c'est comme le champion de Côte d'Ivoire, puis champion de Ligue, hein, c'est pas la même chose. Hein. Et à quoi les petits concours, ils ne viennent pas à l'église dimanche? Non, lundi, c'est compo, ils ne viennent pas à l'église dimanche. Ah! Je reprends mon français. À quoi un petit concours, l'ENA, quand on comprend qu'on fait lundi, il y en a qui dit non, pasteur, je n'ai pas assez révisé. Je ne vais pas dimanche à l'église. Vous voyez, ces genres de comportements montrent que vous n'avez. Les gens n'ont pas la confiance, quoi. Moi, j'ai compris l'agrégation, tenait tout dimanche, lundi matin, mais je vais à l'église dimanche. J'ai crié, j'ai sauté. Personne n'a su. Est-ce que vous savez que j'étais en train de préparer lundi passé, il y avait le dernier test qui est le plus terrible, le plus difficile. J'avais ça, mais je suis venu à l'église. Personne n'a su. Je n'ai pas prêché parce que je ne voulais pas casser ma voix, puisqu'on parle. C'est tout, hein. Sinon, j'ai fait exactement les mêmes choses comme tout le monde. Si vous mettez Dieu à la première place, il vous mettra à la première place. Gloire à Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour cela. On a l'occasion de fêter, de célébrer ça. Je veux qu'on fasse au conseil de gestion. Il faut qu'on fasse quelque chose à la gloire de Dieu. Je vois que Dieu est en train de donner un signe au corps de Christ et aux évangéliques pour que nous puissions savoir que ce qu'il a écrit est vrai. On partage la même Bible, du moins l'Ancien Testament avec les Juifs. Eux ne partagent pas le Nouveau Testament, on partage l'Ancien Testament. Mais il se trouve qu'à peu près la moitié des prix Nobel de sciences, de physique, de chimie, d'économie reviennent aux Juifs. Pourquoi? Pourtant, on a la même Bible. Nous, on a un surplus. On a le Nouveau Testament, on n'a même pas ça. Mais parce que justement, ils ont pris les choses au mot, ils ont couru vraiment à ça. Notre problème, nous, évangélistes, c'est qu'on a tout spiritualisé. On a tout spiritualisé. Tout est spirituel. Et on ne travaille pas assez. Et c'est nous les pasteurs que vous trompons. On dit, viens, on va faire prière seulement et puis tu vas réussir. Quoi? J'entends la radio. On va faire prière, faire des prières pour que vous soyez admis à vos examens. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Il faut prier beaucoup. Mais il faut beaucoup travailler. Je vous assure, il n'y a pas de tricherie. Il faut travailler comme pour le fou. Mais arriver des fois, travailler pendant 10 heures, 12 heures. Mais comme un fou, quoi. Pourquoi est-ce que Dieu le fait? Dieu le fait parce qu'il veut nous enseigner les voies de l'excellence.
Croyez simplement à ce que Dieu a dit. Avant de finir, qu'on ait un temps d'adoration. Croyez que Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Je me rappelle en avril 2001, j'étais à Cotonou. À l'hôtel Étoile du Sud, quelque chose comme ça. Ça m'a été détruit. Et Dieu m'avait parlé. Prenez ce passage-là. Ça fera partie des choses que je vais dire concernant ce temps d'adoration qu'on va voir. Prenez ça dans Josué. Josué, chapitre 2. Josué, c'est le sixième livre de la Bible. Après Deutéronome. Josué, chapitre 3. L'Éternel dit à Josué, chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi comme je l'étais avec Moïse. » En avril 2001, Dieu m'a parlé. Quand je dis Dieu m'a parlé, Dieu m'a vraiment parlé. À chaque fois que je dis, tu n'es pas à 100%. Mais si vous vous dites que Dieu m'a dit ceci, c'est qu'il m'a vraiment parlé. Dieu m'a parlé. Je lis la Bible. Et Dieu dit à Josué, je commence à te rendre grand. J'ai pris cette parole. Je l'ai saisie dans mon cœur. Et dans ma chambre d'hôtel, j'ai commencé à bénir Dieu. Je dis, Seigneur, tu as parlé. Je pars d'avril 2001. Et ce n'est pas tout. Et après, le Saint-Esprit a conduit mon regard sur le passage qui vient juste après au chapitre 4. Regarde le chapitre 4 et le verset 14. Chapitre 4, verset 14. Ce jour-là, l'Éternel a rendu Josué grand aux yeux de tout Israël et le respectait comme ils avaient respecté Moïse tous les jours de sa vie. Amen. Regarde deux passages. Dieu dit, je commence à te rendre grand. Et au verset suivant, chapitre suivant, dit, et Dieu rendu Josué grand. Donc, j'ai compris qu'il allait arriver un temps où Dieu allait me conduire dans le processus de l'élévation. Mais qu'elle allait arriver à un moment donné où Dieu allait vraiment me rendre grand aux yeux de tout Israël. Ici, on n'est pas en Israël, mais aux yeux de la Côte d'Ivoire, quand la communauté scientifique et la communauté scientifique le reconnaissent. Et quand je vous dis qu'il m'a reçu comme professeur Denis Seki, qui est l'un des plus grands juristes africains, qui est très fier de moi parce qu'en 2003, en 83, il était major et moi aussi je suis major. Il me l'a dit. Donc, je me rends compte, Dieu me fait asseoir avec des personnes pour qui on a un respect incroyable. Est-ce que vous rendez compte même? Tous ce voisin. Est-ce que c'est vrai? C'est des gens qu'on respecte même, qui sont des éminents juristes. Ils s'assoient à la même table et ils me disent, je te respecte. Un gars comme Denis Seki. Rapporteur de l'ONU au Rwanda. Il me dit, Abraham, on a deux traits communs. Ah, Dieu est grand. C'est des gens qui sont tes maîtres et disent, on a deux traits communs. Le Congo est lui à Abidjan, tu as été major, moi je suis major. Ça, c'est pas grand ça. Chers frères et chers sœurs, je veux que vous croyez à la parole de Dieu. Dis à ton voisin, crois à la parole de Dieu. Quand Dieu te parle, ou si Dieu te parle, même quand ça tarde, même quand ça dépasse 15 ans ou 20 ans, crois à la parole. Et j'ai régulièrement pris la parole. Quand ça chauffait sur moi, je prends la parole et dis, Seigneur, tu as dit, tu m'as parlé clairement. Tu as commencé à rendre Josué grand. Seigneur, tu commences à me rendre grand. Deuxièmement, il a écrit, et Josué, et Dieu a rendu Josué grand. Dit, Seigneur, j'attends l'événement où tu vas me rendre grand. C'est pas une nomination. Parce que quand on te nomme là, si on t'a dénommé, ton nom, c'est fini, non? C'est pas une nomination. Ça, c'est un statut à vie. Gloire à Dieu. Ça, là, c'est une position à vie. Ça n'a rien à voir une nomination. Personne ne m'a nommé. Ma prière, c'est que Dieu lui-même puisse te nommer. Dieu puisse te nommer. Que Dieu te place à la place. S'il vous plaît, il te met à la place qu'il a toujours voulu. Je crois à un plan éternel de Dieu. Avant que tu naisses, Dieu t'a connu. Est-ce qu'on le croit vraiment? Avant que je naisse, il m'a connu. Avant que tu naisses, il t'a connu. Il a préparé des chemins pour toi. Et si nous savons nous appuyer sur le grand Dieu, même si nous échouons, parce qu'on peut échouer, et moi j'ai échoué déjà, j'ai échoué plusieurs fois dans ma vie. je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas l'occasion de rendre tout le témoignage, mais j'ai l'occasion de le rendre publiquement. Quand le conseil de gestion, qu'on va organiser, choisir la période, peut-être en février, je ne sais pas, on fera un grand programme. Et puis on va louer Dieu et on va inviter beaucoup de personnes pour que ça serve de modèle à tout le corps de Christ, aux pasteurs évidemment, mais aussi aux chrétiens. Pour ne plus que nous évangéliques, on soit seulement ceux qui prient, qui parlent en langue et qui tirent le diable par la queue. Nous-mêmes, c'est nous qui tirons le diable. Nous ne poursuivons plus, hein. Nous, c'est nous qui le poursuivons pour prendre sa queue. Dis à ton voisin, cette période a changé. On doit briller. On doit briller. On doit briller. Et je ne veux plus que quelqu'un me parle d'excellence parce que lui-même, il faut qu'il soit l'excellence. Ah non, non, je ne veux plus que quelqu'un me dise, tu seras élevé. Ah bon, toi-même, tu es élevé. Et souvent, on croit à ça. Viens, viens, on fait une impactation, Dieu va te distinguer. Est-ce que toi-même, tu es distingué? C'est pourquoi ceux qui sont plus sérieux, qui sont réfléchis, ils ne vont pas dans nos églises. Ils ne croient même pas à ce qu'on dit. Pas celui qui le dit lui-même, il n'est rien. Il faut que nous privilégions le modèle. Dieu, ton voisin, le modèle. Sois un modèle. Et ça m'a prié, ce n'est pas seulement une action de grâce, mais qu'on soit vraiment un modèle. Dans les affaires, qu'on soit les plus sérieux, les plus disciplinés possibles. Le problème de l'église, c'est qu'on manque de discipline. On pense toujours que Dieu ferait les choses à notre place. C'est faux. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a créé le monde en 6 jours. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé et il a donné à l'homme de continuer le travail. Si on n'a pas la révélation, on pensait que Dieu va agir pour nous. Oh Seigneur, descends, agis pour moi. Dieu dit, mais j'ai déjà travaillé 6 jours. Le 7e jour est le jour des sommes. C'est le jour au cours duquel l'homme doit révéler ses capacités. C'est pourquoi Dieu fait pleuvoir, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Et ceux qui sont toujours premiers ne sont pas forcément les chrétiens. On est étonné des fois. Mais parce que justement, Dieu veut qu'on soit ce qu'il veut que nous soyons. Et si nous croyons vraiment ses paroles, sa grâce va s'accomplir. Le dernier passage qu'on va lire, l'un des derniers passages qu'on va lire, se trouve dans Genèse, chapitre 15. Genèse, chapitre 15. Verset 1 jusqu'au verset 2. Non, c'est le verset 1 seulement. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Sois sans crainte. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je donne ce passage aussi parce que Dieu m'a parlé à travers ce passage également. Et Dieu, il a dit après ces événements. Vous voyez que Dieu est le Dieu qui opère à travers les circonstances. Il opère dans les saisons. Il dit après ces événements, ne prenez jamais à la légère les événements qui vous arrivent. Qu'il s'agisse d'un échec, d'une douleur, de la paix d'un être cher ou d'une circonstance particulière. Généralement, Dieu nous parle toujours au travers des événements. Vous n'avez pas remarqué ça? Il dit, après ces événements, à chaque fois que tu te trouves devant un événement, c'est que Dieu veut te faire passer à un autre niveau. Il dit, après ces événements, et l'événement dont il s'agit, c'était la guerre qu'Abraham a livrée avec le roi de Kedorlaomer, la guerre spirituelle, la guerre contre les œuvres des ténèbres. Mais tout simplement, ce qui nous entoure, et qui constituent simplement des obstacles majeurs, ou majeurs plutôt. Dieu veut se servir des obstacles majeurs pour nous propulser à un haut niveau. Et si nous savons nous appuyer sur lui, en fait c'est cela. Dieu a appelé Abraham le père de la foi, mais parce qu'Abraham a appris à compter sur lui. Dieu dit, après ces événements, Dieu s'adresse à qui? À Abraham. Il dit, Abraham, parce que tu as écouté ma voix, parce que tu as écouté ma voix, ta récompense sera très grand. Chers frères et chers sœurs, notre récompense dépendra de comment nous écoutons la voix de Dieu. Dans chaque aspect de notre vie, écoutons ce que Dieu nous dit. Si Dieu nous parle d'aimer, de pardon, de laisser faire, faisons-le. Si Dieu dit ce que tu as envie de faire, c'est beau, mais fais ça, fais-le. à supposer que je n'ai pas obéi à la voix de Dieu. J'aurais été un bon pasteur comme tous les autres pasteurs. Mais honnêtement, est-ce que Dieu fait, est-ce que à partir de maintenant, une différence ne sera pas faite entre moi et les autres? C'est clair. C'est sans aucun, c'est clair. Il n'y a rien à faire même. Donc quand Dieu te dit de faire ça, il faut le faire. Tu ne sais peut-être pas à quel résultat tu vas aboutir, mais fais-le. Il y a des gens à qui Dieu dit, va, travaille parmi les prisonniers. C'est le ministère. Travaille parmi les gens de mauvaise vie. Si il vient dire à Dieu, mais les gens qui sont de mauvaise vie, les prisonniers n'ont pas d'argent. Parce que nous, on est toujours attirés par l'argent, par la dîme offrande. Il n'aura jamais la renommée que Dieu veut lui donner. Je me souviens de David Wilkerson. Je ne sais pas si quelqu'un en a entendu parler de lui. Un pasteur américain, maintenant, il est décédé. Ça fait quelques mois, il est décédé. C'était un pasteur baptiste d'une église quelconque dans une petite ville des États-Unis. Dieu lui a dit, voici là où je te conduis. Il aurait pu dire, Dieu, mais je dis un bon pasteur, j'ai ma situation, je vais faire quoi parmi les drogués, parmi les brigands? Dieu dit, va, c'est là-bas, je t'envoie. Il est connu dans le monde entier, David Wilkerson, et ce n'est pas un grand ministre, c'est pas quelqu'un qui a les paroles de connaissance, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de miracle, il n'y a rien. Lui-même, c'est un pasteur baptiste. Mais quand on cite les grands pasteurs américains, on le cite. Pourquoi? Mais parce qu'il a obéi à la voix de Dieu. Il a laissé son confort. Il est allé avec les drogués, avec les prostituées. Ah, bon, il n'est pas allé avec elles. Ils ne sont pas couchés ensemble. Il est allé, ça dit que, il faut bien préciser les choses ici parce qu'on ne sait jamais. Il s'est occupé. Voilà, il s'est occupé de ces personnes-là. Il a annoncé l'évangile. Et sa fondation, Team Teenager, est connue dans le monde entier. Il a reçu beaucoup de fonds pour bâtir des centres d'accueil, des centres pour les drogués, pour désintoxiquer les alcooliques et les drogués. Simplement parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Chers frères et chers sœurs, ta bénédiction dépend de comment tu écoutes la voix de Dieu. Tout comme celui qui a bâti le grand mouvement des hommes d'affaires, de plein évangile, comment il s'appelle? Démon Chakarian, très bien, merci. C'était un chrétien simple. Et Dieu lui a ouvert les yeux pour dire, il faut toucher les hommes d'affaires. Il faut toucher les riches. Parce que c'est vrai que tel que les cultes sont faits dans nos églises évangéliques, ça ne touche pas les riches. Il dit, il faut toucher les riches. Il a commencé à faire ses réunions dans les hôtels, pas dans les églises. Mais dans les hôtels, avec des dîners qui coûtent cher. Et les gens commençaient à venir. Et Dieu est passé par ce mouvement de full gospel pour amener des hommes d'affaires de haut niveau à Christ. Le plus important dans ta vie, c'est d'obéir à la voix de Dieu. Dis à ton voisin, écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu et obéis à sa voix. Là où il t'a mis, si Dieu te dit, tu es pasteur, c'est vrai, continue à prêcher, mais je veux que tu fasses ça. Par exemple, je veux que tu ouvres une grosse boîte financière, je veux que tu deviennes un homme d'affaires riche. Ne néglige, ne dis pas, non Seigneur, monsieur pasteur, je vais aller prier pour les gens. Prie pour les gens, mais ne néglige pas ce qu'il t'a dit. Parce que si tu négliges ce qu'il t'a dit, vous voyez, l'élévation qu'il veut t'accorder, la distinction, la marque qu'il veut mettre sur toi, c'est en rapport avec son plan éternel. C'est en rapport avec son plan éternel. Dans l'éternité, Dieu a vu que tu serais pasteur, même pasteur homme d'affaires. Dans l'éternité, Dieu a vu que, en ce qui me concerne, que je serais pasteur, même pasteur universitaire. Dieu l'a prévu. Alors si moi je vais dire, Seigneur, moi je vais être un pasteur ordinaire, Dieu dit non, tu seras pasteur, même pasteur intellectuel, un pasteur universitaire. Je suis pas un homme d'affaires, par exemple. Donc il est important pour vous, en tant que chrétien, de savoir comment Dieu vous conduit. Votre succès, votre élévation, votre distinction dépendra de ce que Dieu a voulu que vous soyez, de ce qu'il vous a dit. Et si vous écoutez sa voix, comme Dieu a dit à Abraham, parce que tu as écouté ma voix, ta récompense sera très, très, très grande. Si on écoute la voix de Dieu, si on ne méprise aucune de sa voix, si on ne méprise aucune direction qu'il nous donne, qu'on prend tout au sérieux. Ça peut ressembler à un grand sacrifice. Ça coûte beaucoup de cher, c'est vrai. Je vous assure, étudier coûte très cher. Ça m'a pris 7 ans. Le doctorat, plus l'agrégation. Depuis 2004, je n'ai quasiment pas de vie, mais vraiment. Mais aujourd'hui, je suis un homme libre. Je peux me consacrer au travail, à mon épouse, aux enfants. Je peux surtout me consacrer à vous. Je peux vous rendre visite. Je peux prier avec vous. Je peux m'occuper de vous. Et si des fois, vous-même, vous ne me voyez pas, c'était pour ça. Je ne pouvais pas faire autrement que d'obéir à ce que Dieu me dit. Est-ce que vous n'êtes pas fiers? Vous n'êtes pas contents? Ma prière, c'est que vous aussi, dans quelque domaine où vous soyez, écoutez ce que Dieu dit. Écoutez ce que Dieu dit. Et si vous l'écoutez, le ciel et la terre vont s'ouvrir pour vous. Je crois une chose. Quand Dieu a parlé, ce qu'il a dit s'accomplit.
Ce que sa bouche a dit, sa main l'a. Ce que sa
bouche a dit, sa main l'a accompli.
À chanter cette chanson, pense à tout ce que Dieu t'a dit. Si tu n'es pas sûr que Dieu parle, pense à moi. Si tu n'es pas sûr que Dieu est capable d'accomplir sa parole, pense à Kadia Abraham, major du concours d'agrégation. Pense à moi et dis: Seigneur, tu l'as fait pour ton serviteur, tu le fais pour moi. Mets-toi debout. On se met debout et on chante. Et confesse que tout ce que Dieu t'a dit, les vraies prophéties, les vraies visions, les vraies révélations que Dieu t'a accordées depuis 5 ans, depuis 20 ans, depuis 2 mois, depuis 3 mois, il va le faire.
Ce que sa bouche a dit, certainement. Ce que sa bouche a dit, ce que sa bouche a dit,
ce que sa bouche a dit,
sa main l'a accompli. S'il a dit, tu seras à la tête.
Sa main l'accomplit.
S'il a dit, je t'élèverai.
Sa main l'accomplit.
Ce que sa bouche a dit.
Ce que sa bouche a dit.
Sa main l'accomplit.
Ce que sa bouche a dit,
sa main l'accomplit.
Sa main l'accomplit.
Oui, ce que sa bouche a dit.
Commence à confesser. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose ce matin? Parle au Seigneur. Tu as une période où tu es peut-être enceinte, tu ne vois pas l'enfant encore. Il est écrit que Dieu fait appel à l'existence et qu'il n'existe pas. Tu es sur un chemin où tu sens l'humiliation à cause de ce que tu vis. Tes yeux présents ne voient que l'humiliation, la galère et la misère. Et personne ne veut t'accorder du crédit. Mais ce matin, tu assures que Dieu accomplit ce qu'il dit. Dieu accomplit ce qu'il dit. Confesse son nom. Dis: Seigneur, je sais que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Confesse-le. Ce que ta bouche a déclaré, ta main l'accomplit. Oh Seigneur, tu es le grand Dieu. Oh Koloshandara Baba. Tu ne seras pas dans la misère, tu ne seras pas la honte. Tu ne seras pas la honte de ta famille. Tu ne seras pas la honte de ta famille. Je veux que tu le saches. Dieu, le Dieu fidèle. Et pendant qu'on va chanter, je vais prier pour quelques personnes. C'est vrai que le temps paraît court, mais je vais prier pour quelques personnes. Je crois. Ça t'est une preuve que ce que Dieu dit est tellement vrai. J'ai plus besoin de sauter, de crier, de transpirer pour qu'on croie que ce que Dieu dit est vrai. J'en suis moi-même la preuve. Et je pense que c'est pour cela que Dieu a voulu qu'elle soit ainsi. Pour que la parole que j'annonce puisse avoir du poids. À cause du témoignage. On parle d'Abraham parce qu'il est le père de la foi. Il a expérimenté quelque chose. On parle de David parce qu'il a vécu Goliath. C'est vrai. Dieu s'appuie au travers de nos vies sur des événements afin de donner du crédit à notre message. Du crédit à notre message. Et ce matin, mon message a un crédit. C'est que Dieu est un Dieu fidèle. C'est que Dieu est un Dieu fidèle. C'est que Dieu est un Dieu fidèle. Regarde, il met à ta disposition les circonstances. Il réunit les circonstances en ta faveur. Il réunit les circonstances en ta faveur. Oh Seigneur, bénissons ton nom ce matin. Oh Seigneur, tu es le Dieu fidèle.
Thank you.
ta fidélité est grande.
Avant qu'on ait prié, est-ce qu'il y a des personnes qui sont en attente de l'accomplissement de la fidélité de Dieu? La salle est trop petite, c'est vrai, mais on peut s'asseoir, on peut s'asseoir. On va être très pratique. Il y a des gens ici, des personnes, des frères et des sœurs qui sont en attente de l'accomplissement de la parole de Dieu. Dieu t'a parlé, les choses semblent prendre du temps. Tu sens même perdre un peu de force, de courage. Abraham commençait à perdre la foi, c'est pourquoi Dieu lui a dit ta récompense sera grande. Si telle est la situation, si tel est ton cas, tu vas simplement te tenir debout. Une attente qui semble prendre du temps. Un peu comme l'horizon. Au fur et à mesure qu'on s'en approche, il s'éloigne. Et tu dis, mais Dieu, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ce matin, tu vas t'appuyer sur la fidélité de Dieu. Ce matin, tu vas t'appuyer sur la fidélité de Dieu. Et je le dis, Dieu peut te parler. Il se peut que tu aies une vision sur place, une vision, une pensée spontanée. Crois à la pensée que tu as reçue. Si tu reçois une vision dans ton esprit, crois. Parce que maintenant, le Saint-Esprit est là. Hein. Satan n'est pas là. Le Saint-Esprit est là. Et Dieu va te conduire à voir la chose. Et je vais passer prier avec vous simplement. Le temps manque, c'est vrai. Je vais passer simplement prier avec vous. Simplement vous touchant, simplement disant, Seigneur, tu l'as fait pour moi. Fais-le pour les autres. Vas-y.
Ta fidélité est grande.